évitez de grignoter.
Sud Radio, le débat. Raphaël Antoven, Étienne Soir, 19h-20h, Éric Morillon.
Bonsoir à tous, il est un peu plus de 19h sur Sud Radio, nous sommes en direct jusqu'à 20h également en live vidéo sur Facebook et YouTube. Alors ce jeudi 11 avril, alors que le grand débat national est désormais clos et que le gouvernement a présenté cette semaine les orientations et la méthode choisie, ce sont les mots du gouvernement, pour apporter des réponses aux préoccupations des Français, Sud Radio vous propose donc un nouveau débat exceptionnel avant l'annonce des mesures prises par Emmanuel Macron. Et 5 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, nous avons demandé à 2 personnalités qui s'étaient rencontrées sur ce plateau de revenir débattre. Leurs opinions ont-elles changé? Quel regard portent-elles sur la situation du pays? C'est parti pour le débat.
Sud Radio, le débat. Raphaël Antoven, Étienne Chouard, 19h-20h. Éric Morillot.
C'est donc parti pour le débat. Il est professeur d'économie et de droit, mais aussi militant politique. Il est l'auteur du blog du Plan C et travaille depuis plus de 10 ans sur la réforme des institutions, notamment le RIC. Il est aujourd'hui célèbre comme figure de proue du mouvement des Gilets jaunes, après notre cause commune instituée nous-mêmes, la puissance politique qui nous manque, est paru fin janvier aux éditions Max Milo. Il a publié le 13 février dernier « Écrire nous-mêmes la Constitution », exercice d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire. En tout cas, il ne choisit pas des titres courts. Aux éditions Talma Studio, c'était aussi une voix désormais bien connue de Sud Radio, où il intervient chaque semaine. Étienne Chouard, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Étienne Chouard, pour débattre une seconde fois, un professeur de philosophie, essayiste, mais aussi homme de médias qui officie notamment sur Arte. Grand orateur, il aime manier l'humour, voire la provocation. Ses nouvelles morales provisoires sont toujours disponibles aux éditions de l'Observatoire. Je vous ai vu tiquer. Le sonore vous a nommé Raphaël Antoven, mais c'est Raphaël Antoven.
On ne peut rien vous cacher, Eric.
Merci
bonsoir,
d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Raphaël. Alors, bien sûr, on va débattre dans la courtoisie, j'espère, comme c'était le cas déjà lors du premier débat. 4 thèmes ce soir qui ont été donc choisis en accord avec vous deux. Tout d'abord, bien sûr, le point sur ce mouvement des Gilets jaunes, plus de 5 mois après le début de ce mouvement. Où en est-on? On parlera également des accusations d'antisémitisme et d'homophobie. On retournera évidemment sur ces polémiques, sur les haines. Peut-on ou non identifier les Gilets jaunes à cela? Et puis, dans une deuxième partie, nous ferons le procès, si l'on peut dire, de l'élection. Les élections sont-elles des pièges à cons? Quel regard plus largement peut-on porter sur la colère et la violence dans notre société aujourd'hui? Alors donc, le premier sujet, c'est donc le point sur ce mouvement des Gilets jaunes, plus de 5 mois après son début. Ce mouvement est-il mourant ou au contraire naissant? Alors la parole, puisque c'était donc il y a quelques semaines, Raphaël Antoven qui avait débuté, cette fois ça va donc être vous, Étienne Chouard. On pense que vous êtes plutôt pour la deuxième option.
C'est-à-dire, ce que je vois sur les ronds-points et dans les réunions avec les Gilets jaunes, je vois de plus en plus de monde. On était 700 à Metz, avant-hier on était 500 à Béziers, en fait on est très nombreux, sur les ronds-points il y a encore plein de monde, et puis ceux qui sont chassés physiquement des ronds-points, en fait, transforment leur action, et en ce moment les Gilets jaunes sont en train de devenir constituants, ce qui est littéralement révolutionnaire et inédit, je trouve. Les Gilets jaunes, prenant conscience que jamais les élus ne leur donneront le référendum d'initiative citoyenne, digne de ce nom, s'entraînent à l'écrire eux-mêmes. Et je trouve ça tout à fait remarquable. Je trouve que d'ailleurs c'est dans l'ordre des choses, puisque les règles de représentation ne doivent en aucun cas, à mon avis, et j'aimerais bien avoir l'avis de Raphaël là-dessus, mais à mon avis...
Alors, l'avis de Raphaël...
Laisse-moi formuler la question. Bien sûr, ouais. À mon avis, les règles de la représentation ne doivent pas être écrites par les représentants, qui sont jugés partis, mais par les représentés, qui sont les donneurs d'ordre, qui sont ceux qui sont à la source de la souveraineté et qui disent comment ils veulent qu'elle soit exercée. Donc, comme Thomas Paine l'expliquait déjà très bien à la fin du XVIIIe siècle, les gouvernants ne devraient pas être partis au processus constituant. Ils n'ont pas leur place, puisque dans le processus constituant, par construction, par définition, ils n'existent pas encore. Des humains se rassemblent, et ce qu'ils font sur les ronds-points est exemplaire, nous devrions faire ça dans toute la société. Des humains se rassemblent sur les ronds-points avec un besoin d'être représentés. Et j'ai vu que dans votre article dans Les Échos, vous soulignez le fait qu'ils n'y arrivent pas.
Alors oui, dans l'article des Échos, alors pour les auditeurs,
on pourra prendre ça comme
si vous voulez bien, Étienne, on fait un petit point justement pour Raphaël Antoven. Le mouvement des Gilets jaunes n'ira pas plus loin, son insigne faiblesse étant de n'avoir jamais fait l'effort de passer du rejet au projet. Donc alors, ça a dû vous faire bondir, ça, Étienne Chouard.
Oui, il y a plein de points sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais justement, ça va être intéressant de discuter pour comprendre pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord et est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais
tant qu'on est d'accord pour ne pas l'être.
Oui, voilà, tout à fait. On a dit qu'on allait construire nos désaccords, donc ça, voilà. C'est tout à fait remarquable, je crois. Je crois que c'est même... exemplaire. Nous devrions tous, dans le pays, essayer de comprendre où est-ce que nous nous trompons. Comment se fait-il que cette personne qui a un point de vue si contraire à ce point de vue, quels sont les arguments qu'il conduisent à l'avoir, de façon à progressivement rapprocher les points de vue et comprendre où est le vrai, quoi. C'est-à-dire que, bon, je sais bien que je me trompe quelque part, je ne sais pas encore où, et je cherche avec vous. Donc, sur le point de savoir est-ce que les gilets jaunes sont naissants ou mourants, mais moi, je vois un système qui n'a jamais été aussi fort, et jamais aussi, enfin, un mouvement qui n'a jamais été aussi fort, jamais aussi
près. Enfin, la mobilisation baisse quand même chaque samedi.
Non, pas du tout. Chaque samedi, vous parlez de quoi? Vous parlez des manifestations à Paris? Mais attendez, vous savez ce qu'on nous fait? On nous tire dessus. On nous tire dessus à tir tendu. Évidemment que les gens ne viennent plus. Mais bon, ça, ce n'est pas une démobilisation. Les gens sont remontés comme des horloges chez eux. Ben oui, bien sûr. Ben non, mais vous ne pouvez pas à la fois tirer sur les gens dans les manifestations et vous étonner, ou en tout cas trouver normal que le nombre de manifestants diminue. Oui, non, moi je n'y vais pas dans les manifestations, j'ai peur de me faire tirer dessus, je n'ai pas envie. Oui, tout à fait, mais il y a bien d'autres façons de résister. De toute façon, je leur dis depuis longtemps que...
Je vois Raphaël sourire.
Ça n'est pas raisonnable d'aller se castagner avec la police. Nous ne sommes pas assez nombreux pour être légitimes pour aspirer à renverser un gouvernement. Ce qu'ils font quand ils sont... quand ils deviennent constituants, eh bien, à la fois plus astucieux, plus légitimes, plus porteurs d'espoir, à mon avis, ils prennent le problème à la racine. Le problème de leur impuissance politique et de leur mauvaise représentation.
C'est pas parce qu'on n'est pas assez nombreux qu'il n'est pas raisonnable d'aller se castagner avec la police. C'est parce qu'il n'est pas raisonnable d'aller se castagner avec la police dans un état de droit, Étienne. Avec votre permission, Étienne.
Imaginez que nous soyons 20 millions, nous serions légitimes à aller nous castagner avec la police.
C'est vrai, mais ce n'était pas 20 millions, c'était plutôt 20 000. Mais s'il vous plaît, j'y vais. Paris, c'est pas Soweto. Vous dites, on nous tire dessus. Paris, c'est pas Soweto. Il y a des analogies, si vous voulez, qui me chiffonnent, moi.
Pourquoi vous parlez de Soweto?
Parce qu'à Soweto, effectivement, la police avait tiré sur la foule, il y avait eu des dizaines de morts. C'était une autre ambiance. De la même manière, les gaz lacrymogènes n'étaient pas du Zyklon B quand j'entendais des gilets jaunes dire « Vous nous gazez comme des putains de juifs ». Si vous voulez, il y a un sens de l'analogie, si vous voulez, qui, à mon avis, impose la mesure. Mais j'en viens à la question des gilets jaunes eux-mêmes. À mon sens,
c'est pas mesuré de nous tirer dessus.
Non. Bien sûr. Ce qui n'est pas mesuré non plus, c'est le saccage des bâtiments publics. Mais j'en viens à la question des gilets jaunes. Les gilets jaunes eux-mêmes. Pour moi, effectivement, le mouvement est fini. Fini depuis longtemps. En fait, étonnamment, depuis l'apparition d'Alain Finkielkraut, dont les pouvoirs sont étonnants. Quand il est apparu à Nuit Debout, il a tué Nuit Debout. Quand il est apparu devant les gilets jaunes, il a tué les gilets jaunes par la violence des insultes qu'il a suscitées par sa seule apparition. Mais j'irai plus loin. J'ai le sentiment que le mouvement des gilets jaunes était fini avant même d'avoir commencer. Pour une raison simple, c'est qu'ils se sont toujours privés d'un porte-parole. Le but du mouvement n'étant pas de se faire entendre, ça c'est une réussite, on n'a parlé que de ça pendant 20 semaines, mais de dire qu'on n'était pas entendu, ça fait presque 5 mois qu'on entend des gens se plaindre de n'être pas entendu, considérer qu'un pillage est légitime, qu'un saccage devrait être autorisé, que la police est fasciste, que la presse est aux ordres du pouvoir, on n'entend que ça. L'histoire des gilets jaunes, c'est l'histoire de gens qui se plaignent à haute voix de n'être pas entendus.
C'est vrai qu'on n'est pas entendu.
On va en parler aussi. C'est aussi l'histoire, à mon avis, d'une immense fatigue démocratique. C'est-à-dire un système, la démocratie, qui n'a qu'elle-même pour horizon, vaincu par sa propre victoire. C'est un système de droits égaux qui est mis en accusation par des révolutionnaires désœuvrés, qui inversent les valeurs au terme desquelles Macron est un fasciste et Poutine un démocrate. Je ne dis pas que c'est vous, ça. La police française est totalitaire alors que les destructions des bâtiments publics seraient légitimes. C'est aussi l'histoire d'une défaite. C'est la défaite des partis politiques, incapables de préempter ce mouvement, de lui donner un corps. Et c'est surtout, pardon Étienne, l'histoire d'un dialogue avorté et rendu impossible par ceux qui, au départ, donnaient le sentiment de le réclamer. Après le premier échange qu'on a eu, et vous étiez d'accord avec moi pour le déplorer, j'ai été traité d'ordure bourgeoise, de crapule, de salaud, de penseur de cour, de chien de garde. Alors, il y a des trucs plus graves. Il y a sionistes, sales juifs, etc. Il y avait ceux qui se cachaient moins, si vous voulez, qui prenaient moins de gants. On m'a même traité de PD, comme si c'était une insulte. Enfin, bref, je ne me plains pas, hein, je ne suis pas une victime des insultes, j'en reçois tous les jours. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude des partisans, qui était non pas d'écouter les arguments, mais de les disqualifier de façon systématique. J'ai eu 1000 insultes, je n'ai eu aucune réfutation argumentée de ce que je disais.
Et ça vous a presque touché, parce que vous avez hésité
à revenir. Ce qui m'a touché dans l'histoire, c'est le sentiment... J'ai le sentiment de mon inutilité. Vous savez, Camus a une très belle phrase, il dit « Je ne vois pas ce que l'inutilité ôte à ma révolte, mais je sens bien ce qu'elle lui ajoute. » Sauf qu'il y a une limite à cette phrase, de temps en temps, c'est que...
La limite était atteinte ?
La limite est atteinte quand vous avez le sentiment... C'est pas qu'on
m'insulte. Vous êtes très dur, vous aussi, sur Twitter, vous
Non, mais j'insulte pas. C'est pas qu'on m'insulte, si vous voulez. Le fait qu'on m'insulte en soi...
Vous l'avez traité de rougeois, hein ?
C'est la raison pour laquelle on était là. J'ai présenté des excuses.
Moi aussi, je me suis
J'ai présenté des excuses. On est là pour cette raison-là. C'est précisément quand une chose m'échappe, on peut faire amende honorable.
Oui, oui, voilà,
et vraiment, c'est bon. L'insulte, c'était pas le problème. Le problème, c'était la disqualification a priori du discours. Et c'était le sentiment que j'étais représenté en serpent barbu qui essayait d'étouffer un honorable professeur.
Une caricature.
On avait déjà utilisé la même caricature à mon sujet d'ailleurs.
Vous voyez,
à une autre occasion. Donc c'est une
image. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a été très largement, à mon avis, disqualifié malgré sa légitimité, la fraternité retrouvée, la légitimité des revendications. Absolument. Ouais. Et démocratique, et sociale, etc., et institutionnelle. Tout ça a été utile, intéressant, nécessaire, et je salue l'expérience pédagogique que vous décrivez avec les constituants.
Oui.
Malgré tout cela, j'ai le sentiment que le mouvement des Gilets jaunes s'est tiré une balle dans le pied, si j'ose dire, et pour l'heure, sinon dans la tête, et pour l'heure, c'est perdu en route. Voilà.
Et pourtant, je trouve que, il me semble que si on regarde la télé, on a cette impression-là. Mais si on va sur les ronds-points, si on va avec les Gilets jaunes, on voit pas ça. Je vois des gens. Bon, alors j'ai peut-être un biais de confirmation, moi aussi, hein, mais j'ai l'impression que les gens que je rencontre sont gentils.
Dit le contraire, Étienne.
Ah bah si.
Non.
Bah si, quand vous décrivez les paroles les plus violentes, les commentaires les plus insultants, qui me révulsent, moi aussi, je suis d'accord, hein, dans la ligne des commentaires.
Je pense que le mouvement est victime de ceux qui, à l'intérieur de ce mouvement, n'avaient pas le goût de faire de la politique, ni de pratiquer le dialogue, mais tout simplement de tuer le dialogue et d'exprimer une colère.
Oui, il y en a, vous avez raison, il y en a. Mais on ne peut pas réduire le mouvement à ça.
Non.
Dans toute communauté humaine, on va avoir des gens qui ne sont pas prêts à dialoguer, et des gens qui vont castagner, frapper, dévoyer le mouvement. Mais je trouve le manque de représentation qui est à l'origine du fait que ces gens sortent de chez eux, il me semble qu'on était d'accord pour tomber là-dessus, non ? Que les Gilets jaunes, dans leur grande majorité, en tout cas partout dans le pays, je ne parle pas de ceux qui viennent aux manifestations, même ceux qui restent sur les ronds-points, leur point commun, c'est d'être mal représentés, c'est-à-dire de n'être pas défendus à l'Assemblée, d'avoir des lois qui, au lieu de les défendre, les coulent, les accablent d'impôts.
Alors une question, s'il vous plaît. À mon avis, oui, mais on peut le penser. En revanche, une question. Est-ce que le problème des Gilets jaunes était le manque de représentation ou le sentiment de n'être pas représenté, ou bien une critique de l'idée même de représentation en général. Parce que mon sentiment était plutôt que les Gilets jaunes portaient, et ce qui était intéressant d'ailleurs, il y avait une dimension anarchique à tout cela, propice à la réflexion, c'était Bakounine presque, hein, l'idée d'une liberté solidaire, portait une critique de l'idée même de représentation, qui aujourd'hui devient tout simplement le fait de dire on n'est pas représenté par les bonnes personnes. Est-ce que c'est pas contradictoire?
Alors,
ça s'est transformé.
On va en parler de l'élection, du procès de l'élection. J'aimerais juste. Oh, non, mais Étienne, je vais aller dans votre sens justement. Vous parlez de la violence de certains des Gilets jaunes dans leurs mots qu'ils employaient. Alors moi, j'aimerais justement vous faire rebondir, Raphaël Antoven. Est-ce que vous êtes aussi indigné quand Bernard-Henri Lévy a traité Étienne Chouard ici présent d'antisémite lors de sa tournée européenne consacrée à la présentation de sa nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Looking for Europe?
Je réclame une définition, moi. Je ne sais pas si vous en avez
vu. Vous avez entendu ces propos de...
Non, je n'ai pas entendu ces propos, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'ils le disent.
Non, mais ça doit être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté s'indigner
absolument.
Traité d'antisémite si on ne l'est pas.
Mais je ne vais pas, moi, prendre la défense de BHL. Il n'a pas besoin d'avocat, ni l'attaquer. Il n'a pas besoin de procureur. Il en a des milliers. Il n'y a pas de problème. En revanche,
c'est un de vos amis quand même, non?
Quoi donc?
Vous êtes proche de lui?
Proche, c'est-à-dire?
Bah, je ne sais pas, non.
Quelle proximité? D'où vous vient l'idée de notre proximité?
Simplement.
Ça fait peut-être 20 ans qu'on ne s'est pas vu, mais bon, on peut parler d'une proximité.
Pas un problème non, plus, hein,
non, c'est pas un problème.
Pourquoi y aurait-il un problème à être ami de quelqu'un?
En rien, c'est juste que c'est un postulat qui n'est pas. Sur la question de l'antisémitisme, je pense que ce à quoi BHL faisait référence, mais encore une fois, je ne veux pas me faire son avocat, mais je pense qu'il faisait référence implicitement à cette fameuse vidéo qu'on a tronquée de vous-même, Étienne, qu'on a réduite à cette phrase malheureuse sur Alain Soral que vous présentiez comme un résistant. Moi, j'ai regardé la vidéo. Je l'ai regardée en entier, comme il se doit, comme il faut le faire. Dans cette vidéo, vous dites ceci, vous dites, je l'ai noté. Soral dénonce la mainmise de la banque sur les médias, leur côté va en guerre, la duplicité des politiques, le colonialisme guerrier du sionisme, un projet colonial, raciste, militaire. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy.
C'est Étienne Chouard
qui le dit. Le fascisme, c'est les possédants, les banquiers, les industriels et les multinationales qui prennent le contrôle du politique, condamnent aux travaux forcés en empêchant toute résistance. Ce sont vos paroles, Étienne. Bien sûr. Et alors, j'entends bien.
Vous diriez sûrement la même chose.
Alors, juste ce que je veux dire ici, c'est que ces paroles-là, moi si je pensais que vous étiez antisémite, on ne se parlerait pas. Oui. Ni à la radio, ni à l'antenne, ni hors antenne. Donc c'est même pas, pour moi, ça n'est pas une question. En revanche, ce que vous dites, stricto sensu, n'est pas du tout antisémite, mais un antisémite trouvera dans vos paroles la confirmation de tout ce qu'il pense. Il regrettera juste que vous n'ayez pas mis le mot juif derrière le groupe des gens qui contrôlent en sous-main le pouvoir. Et il verra d'ailleurs peut-être dans le fait que vous ne disiez pas juif explicitement la preuve que les juifs eux-mêmes vous bâillonnent. Donc c'est ça que je veux dire.
On peut être responsable de l'usage débile qui peut être fait de ce que je dis. Enfin, alors, non, on est responsable, on ne peut plus parler.
On peut pas, mais évidemment, je ne dis pas ça. Je dis que sur la question de l'antisémitisme, il était monstrueux d'assimiler les gilets jaunes de façon générale, au-delà de la polémique Chouard-BHL. Oui. Il était monstrueux d'assimiler les gilets jaunes en général à l'antisémitisme ou à la violence. En revanche, le logiciel des gilets jaunes, c'est-à-dire qui considère essentiellement, en somme, que le pouvoir est dérobé par ceux qui en ont trop à ceux qui n'en ont pas assez, que les ressources sont dérobées par ceux qui en ont trop à ceux qui n'en ont pas assez, est un discours...
Ce qui est factuel, quand même. Ça c'est factuel.
Non, c'est pas factuel, ça.
Non,
c'est
pas
factuel. Ce qui est factuel, c'est que des gens aient beaucoup et que des gens aient moins. Ce qui n'est pas factuel, c'est le lien de causalité qu'on établit entre les deux, qui est une interprétation de l'économie. Oui, mais ça, c'est autre chose.
Rien d'antisémite, ça. Rien.
Mais non. Je ne dis pas que ça est antisémite, je dis que ce discours-là est compatible avec la rhétorique de l'antisémite qui considère qu'en sous-main, il y a un groupe d'individus qui gouvernent. Justas Mullins.
Mais oui,
Justas Mullins.
Et quel choix
vous le célébrez. Le seul livre de lui que vous brandissez est le livre où il n'est pas antisémite.
Mais exactement, c'est le seul que je connaisse d'ailleurs. Voilà, et il est remarquable. Et quand je l'ai découvert, je l'ai dit que c'était remarquable. Et puis c'est tout. J'en parle. Autrement, j'en parle absolument jamais. C'est le livre qui décrit la création de la réserve fédérale. C'est une enquête pendant laquelle il y a passé, je crois, 20 ans. Et c'était avant qu'il soit antisémite, si j'ai bien compris. Je n'ai pas fait du tout j'ai pas fait d'études sur sa vie, je sais pas ce qu'il était. Il y a pas un mot d'antisémite dans ce bouquin. En tout cas, j'ai vraiment rien repéré de tel. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'empêche de penser et de parler, au risque que,
rien du tout. J'ai jamais pensé que vous étiez antisémite.
Oui,
je dis juste
mais ce que je veux dire, c'est que dans ce que je dis, si je me dis, voyons, est-ce qu'un antisémite va pouvoir transformer ce que je dis et remplaçant tel mot par tel mot, va pouvoir s'en prendre aux juifs? Ben, je peux plus penser, je peux plus parler. Moi, ce que je dis, je ne pense même pas aux juifs. Évidemment, quand je parle des banquiers, je parle des banquiers parce que les banquiers ont les humains ont un problème avec la gestion de l'argent et du prêt à intérêt. Donc, le mécanisme même de la banque, à mon avis, devrait être public. Je dis rien de plus. Je me fiche d'ailleurs pas mal de savoir qui sont les humains dans les banques.
Vous défendez d'une accusation que je ne porte pas contre vous, Étienne.
Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est est-ce qu'on va arriver à s'en prendre à la domination et à l'usure, est-ce qu'on va arriver à s'en prendre sans voir ses propos déformés? C'est super important
C'est la raison pour laquelle le préalable à tout ce que je pouvais dire du lien et de la question débat qu'il y a eu sur la question de l'antisémitisme et des gilets jaunes, le préalable était de dire que si je pensais que vous l'étiez, on serait pas en train de parler. En revanche, qu'il y ait un cousinage, un voisinage des discours ou une compatibilité des discours, ce que je pense, en fait, je peux me tromper, c'est que pour éradiquer l'antisémitisme dans leur rang, les gilets jaunes devraient aussi changer de logiciel. Et c'est quelque chose, et je crois que c'est un effort qu'ils ne feront pas. Et c'est dommage, parce qu'il y a l'antisémitisme, c'est pas simplement la haine des juifs, Étienne. L'antisémitisme, c'est un système global d'explication du monde. On n'est pas antisémite de temps en temps. Quand on est antisémite ici, on l'est là-bas, on l'est partout, on l'est en toutes circonstances. C'est un système. C'est ça, le système. Le système, c'est pas le système. Le système, c'est le principe d'explication du monde qui voudrait que quelques cancres là, au nez crochu, gouverne le monde en sous-main. Or, cette pensée-là, débile, est une pensée, ou folle, ou paranoïaque, si vous voulez, est une pensée qui, en elle-même, trouve, dans le discours intelligent, construit, structuré, et le bel effort constituant que vous faites, paradoxalement, de quoi se nourrir. En tout cas, elle ne trouve pas matière à contradiction. C'est tout ce que je dis.
D'accord. Mais du même coup, j'imagine que si BHL acceptait un débat...
Poser-lui la question. Je ne suis ni son avocat, ni son porte-parole.
Oui, bien sûr, c'était pas la question.
Mais en tout cas, vous acceptez l'idée aussi qu'il ne faut pas faire d'amalgame et que tous les gilets jaunes ne sont pas
évident.
Raphaël est celui qui le défend le mieux, qui défend bien la distinction entre antisémitisme et antisémitisme.
Je vous remercie de me le reconnaître. Merci.
J'ai vu des argumentaires remarquables sur là-dessus.
Il faut introduire de la nuance. Je ne suis pas en train de dire que les gilets jaunes sont antisémites, ce serait monstrueux, je ne dis pas ça. En revanche, on a le droit de s'interroger sur des liens, sur des convergences, sur des paradoxes parfois, et le faire par-delà bien et mal, sans être accusé de souhaiter ce qu'on décrit.
La mise au point méritait d'être faite. Merci d'être très nombreux à nous suivre actuellement sur les réseaux sociaux. Étienne Choix et Raphaël Antoven sont de retour dans un petit instant, juste après ça.
Édition sur opel.fr.
Sud Radio, le débat. Étienne Choix, Raphaël Antoven, 19h-20h, Éric Morillot.
Nous sommes donc de retour en direct sur les réseaux sociaux également. Vous êtes très nombreux à nous suivre donc pour suivre ce débat entre Étienne Choir, donc professeur d'économie et de droit, et Raphaël Antoven, professeur de philosophie. Alors on a beaucoup parlé du mouvement des Gilets jaunes, des accusations qu'on faisait évidemment à l'encontre de ceux qui manifestent. On va actuellement parler, si vous le voulez bien, des élections. Alors sont-elles des pièges à cons? C'est un sujet que vous connaissez bien, Étienne Choir. Les reproches donc faites à l'élection. Alors on va en parler tout d'abord. Du point de vue, si vous le voulez bien, des gouvernés. Est-ce qu'elle donne le pouvoir à ceux qu'ils veulent? Est-ce que c'est la pire des choses depuis Platon, comme certains le disent?
Alors, je voudrais juste un très court préambule. J'aimerais bien parler brièvement pour pouvoir permettre à Raphaël de répondre point par point sans qu'il y ait une longue liste de points et dans laquelle on soit perdu. Et puis tant pis si on n'a pas réussi à tous les faire, on recommencera, on continuera la fois prochaine.
Aux armes, citoyens. Voilà bien du préambule. Alors,
voilà, si vous voulez, moi j'ai un chantier qui est en place. J'étudie la procédure de choix de nos acteurs politiques et je ne lui trouve que des vices. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus précieux, que je cherche des qualités à l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, et je ne lui trouve que des défauts du point de vue du bien commun. Et je voudrais, si vous voulez bien, les examiner les uns après les autres, et que vous me disiez à quel endroit je déconne, à quel endroit je me trompe, j'exagère.
Je suis mal placé pour le faire, mais je veux bien jouer ce jeu-là.
Non, pas du tout, je suis sûr que vous êtes un des meilleurs. Vraiment, ce que j'ai entendu sur France Culture depuis des années me conduit à penser que vous êtes sûrement un des meilleurs comme contradicteur. Première objection sur l'élection, qui serait la procédure d'une démocratie. Pour moi, l'élection, elle est aristocratique. Elle consiste à choisir Aristos le meilleur. Et donc, elle est la procédure aristocratique par construction, alors que le tirage au sort est par construction, de façon historique, et connue de tous les penseurs comme démocratique. J'ai deux citations que vous connaissez, bien sûr. Aristote, ouvrez les guillemets, les élections sont aristocratiques et non démocratiques. Elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens. Les Aristoi, au lieu du gouvernement, par le peuple tout entier. Et puis Montesquieu, au 18e, le suffrage par le sort est la nature de la démocratie, le suffrage par choix est celle de l'aristocratie. Est-ce qu'on est d'accord sur l'étymologie, la définition des mots? Jusqu'à la Révolution française, tout le monde savait que la seule procédure démocratique était tirage au sort, et c'est très récemment qu'on a présenté l'élection comme démocratique. Est-ce que sur le plan de la philosophie politique, on est d'accord, ou est-ce que j'exagère là-dessus?
Non, il y a deux choses, il y a le tirage au sort et la question de l'aristocratisme électoral. L'aristocratisme électoral, c'est un fait. C'est-à-dire, même quand une élection est démocratique, il est inévitable que la personne qui se fasse élire soit celle qui a su soit le plus séduire les électeurs, soit porter le programme le plus efficace, enfin, disposer dans le meilleur des cas des compétences requises pour gouverner, et dans le pire des cas, de l'art de plaire suffisant pour convaincre et séduire des électeurs. C'est la prime au vice comme à la vertu, si vous voulez, l'élection. Et en ce sens, on peut parler d'un aristocratisme démocratique. Le fait est que, c'est ce que Platon raconte, la politique, ça reste un métier. Et c'est ça la difficulté. Et d'ailleurs, mais si, justement.
Pas pour les démocrates.
Mais pardon, Étienne, ça reste un métier et vous y consentez vous-même.
Pour les aristocrates, mais pas pour les démocrates.
Pour les démocrates comme vous. Vous y consentez vous-même au fait que la politique soit un métier. Comment expliquer la place que vous faites dans notre cause commune, dans vos ouvrages, dans votre blog, depuis toujours, depuis 2005, moi je vous suis depuis 2005.
Oui, c'est là que je vous
servais. Comment expliquez-vous la place que vous faites aux ateliers constituants? Le rôle fondamental que vous accordez à la pédagogie ou à la formation du citoyen? Sinon, pour donner, nantir le citoyen, des moyens d'exercer correctement, convenablement et, pardon pour l'adverbe, compétemment, le pouvoir qui lui est temporairement dévolu. Il est évident que la politique est un métier et qui pour cela exige une formation. Que ce métier et que cette formation soient ouvertes à tous. Qu'il faille travailler l'égalité des chances, qu'il faille multiplier les occasions de pratiquer un apprentissage démocratique, c'est certain, mais dire par ailleurs, et c'est tout le problème du tirage au sort, dire par ailleurs que l'égalité des droits vaut une équivalence des compétences et justifierait que tout un chacun gouvernât successivement en mode athénien, c'est-à-dire dans une cité très petite où les fonctionnaires étaient à 10/11e investis de cette façon-là par le tirage au sort. De là, si vous voulez, le problème du tirage au sort, c'est qu'il méconnaît le fait qu'à mon avis, l'exercice du pouvoir relève d'une compétence, d'une maîtrise, de qualité que Platon repère. Il parle de fougue et de tempérance à la fois.
Ce sont des choses. Était aristocrate, il n'était pas démocrate.
Bien sûr, Platon détestait.
Démocrate.
Voilà. Platon détestait la démocratie, mais on peut se servir de Platon comme d'un excellent critique de la chose démocratique. C'est ce que fait Badiou justement. Il a raison. Il prend Platon comme dans la République où il propose un système antidémocratique. Badiou montre que Platon met à mal. Enfin, Badiou veut montrer que Platon met à mal la démocratie ou le capitalo-parlementarisme, comme il l'appelle. Oui, donc il y a ça chez Platon. C'est aussi intéressant de le lire pour cette raison-là.
Vous ne pensez pas que l'élection pousse au mensonge, comme l'insinue.
Si, l'élection pousse au mensonge, bien sûr, l'élection pousse au mensonge. La question est. Bon. L'élection pousse à la séduction. Toute la question est. Et on en avait parlé la dernière fois. Les qualités requises pour conquérir le pouvoir sont rarement les qualités requises pour l'exercer. La hauteur de vue qu'il faut pour exercer le pouvoir convient assez mal à la filouterie et à la bassesse qu'il faut avoir pour mettre en œuvre les manœuvres nécessaires à sa conquête.
C'est Blum qui te soulignait ça.
C'est tout le paradoxe d'un système électoral qui n'est absolument pas parfait, mais qui, en toute rigueur, me semble le moins pire de tous.
Mais puisqu'on vient d'en parler, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que si l'élection pousse au mensonge, pousse au mensonge avant d'être élu, et puis ensuite, une fois qu'on est élu, elle pousse au mensonge pour être réélu, est-ce qu'on peut dire, à contrario, que le tirage au sort, non, le tirage au sort ne pousse pas au mensonge. Est-ce que c'est vrai ça ou
pas ? Ça, tout à fait. En revanche, ce qui pousse au mensonge, c'est le RIC, Étienne, dans ces conditions.
Pourquoi ?
Puisque si, évidemment, si l'impopularité vous vaut la perte de pouvoir, les moyens mis en œuvre pour conquérir le pouvoir et vous faire élire, si votre élection ne vous garantit pas que vous restez au pouvoir jusqu'à la prochaine consultation, mais que vous pouvez être révoqué comme ça au bout d'un an, deux ans, etc.
Selon. Vous voulez le RIC dans un système parlementaire
Le RIC, si vous voulez, celui qui est investi de cette façon-là et qui est comptable du pouvoir de cette façon-là, de ses électeurs de cette façon-là, continuera de leur faire la cour après l'élection.
Moi.
C'est là qu'il devient menteur et démagogue.
Mais c'est moi, j'aurais vu le contraire.
Quelqu'un qui redoute l'impopularité.
Ben oui, il va faire attention à être populaire, donc à servir.
Donc il va plaire à tout le monde, il va plus gouverner.
Mais c'est marrant que vous preniez le fait de plaire à tout le monde comme étant suspect, alors que c'est, à mon avis, la garantie de servir l'intérêt général.
Ah, c'est le contraire. C'est... Alors là, on est en désaccord profond.
Mais pourquoi,
c'est le cœur du désaccord entre
nous. Mais oui, tout à fait. Mais alors pourquoi c'est... Comment ça se fait? Quelqu'un qui fait. Quelqu'un qui est désigné par les représentés comme étant digne d'être leur représentant et qui, quand il exerce sa fonction, fait que les gens ne soient pas contents. Normalement, il va falloir trancher entre le représentant et le représenté. Et comment ça se fait que vous donniez une prime au représentant par le simple fait qu'il ait été désigné, quelle que soit la façon dont il exerce son mandat?
Je ne lui donne
S'il exerce
prime.
Son mandat de façon à nous rendre mécontents, il devrait partir.
Aucune prime ni chèque en blanc. Puisque les élections. Alors, je vais aller dans votre sens, tiens, sur un point. C'est que les élections, en principe, sanctionnent un représentant qui ne tient pas ses promesses, arrive qu'électoralement, nous réélisions des individus qui avaient outrageusement menti. C'est assez intéressant, d'ailleurs, quant à la servitude volontaire dont ça témoigne dans le corps électoral. Mais ça, c'est une autre histoire.
Prenez
juste un exemple. Juste un exemple pour ne pas rester trop théorique pour nos auditeurs. Juste la peine de mort, par exemple. Si François Mitterrand n'avait pas assumé l'impopularité inévitable qui allait avec l'ambition qui était la sienne philosophique, il était tout à fait attaché à ça, de supprimer la peine de mort, il n'aurait jamais supprimé la peine de mort. À l'ère du RIC,
alors
la peine de mort
vous,
Schor, n'aurait
vous
pas été...
que nous puissions poser la question, si le peuple le voulait.
Mais c'est marrant que vous ayez cette peur-là, parce que...
pas une peur.
Mais si,
c'est pas une peur, c'est pas ça que je veux dire.
Une peur.
Je dis juste que l'exercice du pouvoir impose parfois de déplaire aux gens qui vous ont élus, dans la mesure où vous disposez d'un mandat. Vous disposez d'un mandat, c'est-à-dire que le peuple est souverain, mais il n'est pas roi. Il ne peut pas vous révoquer d'un claquement de doigts. Il vous a nommé, il vous destituera s'il n'est pas content en temps et en heure. Dans l'intervalle, vous faites vos preuves et ça suppose parfois de déplaire. On ne peut pas plaire tout le temps ni à tout le monde.
Vous l'avez dit la dernière fois et je n'ai pas pu répondre. C'est pas bon,
alors,
je ne suis pas d'accord avec ça. Quand vous dites « il est souverain, il n'est pas roi », vous êtes légitime à le penser. Bien sûr, je respecte ça tout à fait. Mais est-ce que vous comprenez que... Je vous le dis sans aucune amertume, mais c'est pas à vous de décider, c'est pas à moi non plus. C'est à l'ensemble des représentés de décider ça, non ?
C'est à moi en partie, dites, pour 1/60 millionième, si vous voulez. Voilà. C'est déjà ça, quand
voilà.
même.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui s'arrogent le droit de dire cette phrase-là, c'est-à-dire de dire les représentants doivent pouvoir déplaire aux représentés. Oui. Une fois qu'ils sont élus, article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. Les mandats impératifs sont interdits, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas...
Qu'est-ce que c'est qu'un mandat impératif pour les
auditeurs ? Un mandat, c'est une mission, c'est la consigne, c'est le travail à faire. Et impératif, ça veut dire que ça s'impose. S'il n'est pas impératif, il est indicatif. Indicatif, ça veut dire qu'on fait ce qu'on peut, si on ne peut pas... Bah. Mais quand on dit que c'est impératif, ça veut dire...
En fait, c'est la différence entre une promesse et un engagement,
oui,
si vous voulez.
C'est
quand
la
vous
différence entre une promesse tenue ou bien...
Oui, c'est ça. Si vous dites à quelqu'un, on va s'en sortir, je te le promets, en fait, vous n'en savez rien, mais vous dites à la personne ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, oui. Si vous lui dites, on va s'en sortir, je m'y engage. C'était tout le problème que posait François Hollande quand il avait dit « ce n'est pas une promesse, c'est un engagement à propos de la baisse de la, ouais. de la courbe du chômage ».
Oui, mais finalement, quand les élus eux-mêmes écrivent, parce que c'est eux qui écrivent la Constitution, ce sont toujours des professionnels de la politique qui écrivent les Constitutions, et quand ils écrivent le mandat impératif, tout mandat impératif est nul, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent dans la Constitution le fait que quand on les élit, c'est un chèque en blanc, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, peut-être que je me trompe parce que finalement, l'expérience montrera que dans un processus constituant populaire, les gens préféreront, comme vous, qu'une fois élus, les élus fassent ce qu'ils veulent et qu'on ne puisse pas leur faire respecter les promesses ou dire qu'on n'est pas content parce qu'on a l'impression qu'ils ne servent pas l'intérêt général. Peut-être que les humains, en se réunissant en assemblée constituante, village par village, peut-être qu'ils vont suivre votre point de vue et dire « voilà, c'est les représentants comme ça qu'on veut ». Mais peut-être pas, Raphaël. Est-ce que nous sommes, vous ou moi, ou quiconque, légitimes pour dire « le peuple doit être représenté de cette façon, c'est bien les représentés qui doivent décider ». Oui, c'est pas... Là, pour l'instant, vous, dans le point de vue que vous défendez, quand vous dites le peuple doit pas être... doit être le souverain, mais pas le roi.
Oui,
pas le roi.
C'est une différence fondamentale. Sinon, on bascule dans un absolutisme populaire. C'est une dictature qui s'ignore ou qui ne se vit pas comme telle.
Qu'est-ce que ça veut dire une dictature populaire ?
C'est-à-dire tout simplement.
C'est la démocratie, ça, non ?
Ah non, c'est pas la démocratie.
Ah, comment ?
Tocqueville a forgé une expression pour ça. Il parle de tyrannie de la majorité. Et quand il emploie cette expression, il dit d'ailleurs, c'est vrai, elle est contradictoire. En quoi la majorité est-elle tyrannique,
oui,
puisque la majorité vote.
Qu'est-ce qu'on met à la place ?
Et pourtant,
la tyrannie de la minorité.
C'est exactement ce que je pense, Étienne. Oui. C'est pour ça que je défends le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui. Mais quand Tocqueville parle de tyrannie de la majorité, il ne parle pas simplement de loi, il parle de ces paroles qui sont interdites implicitement, qu'on ne peut pas prononcer, de ces choses qui sont indicibles, de la tyrannie du convenable, de la façon dont la vox populi aussi tend à écraser une parole qui disconvient, et de la façon aussi dont la tendance est de disqualifier le discours dont l'argumentaire déplaît. La simple tendance, par exemple, à considérer que quand vous... je vous donne un exemple. Dans les années 50, Raymond Aron constatait que l'Algérie deviendrait algérienne. Bon, il écrivait dans le Figaro. Il le voyait venir. Il disait démographiquement, économiquement, ça ne va pas tenir. Bon, il écrit ça dans le Figaro. Pierre Brisson l'appelle, lui dit « T'es fou Raymond, ça tu perds la tête, pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et nos lecteurs, comment tu peux souhaiter une chose pareille ? Aron lui dit « Je ne le souhaite pas, je le constate. » On a pris sa description pour une prescription. Il a été viré du Figaro, il est allé au Monde, à l'Express, il l'a dit ailleurs, et il avait raison.
Mais c'est une injustice, ça.
Mais le mouvement qui consiste à confondre un constat et un souhait, le mouvement qui consiste à dire ce que vous dites là, en réalité, vous le souhaitez. Quand vous dites 2 et 2 font 4, on vous accuse d'être le gardien de l'ordre établi. Ce mouvement-là est un mouvement totalitaire, est une tentation totalitaire.
Totalitaire,
tout à fait totalitaire, parce que c'est un écrasement de la parole. C'est un écrasement de la parole qui, en plus, se vit comme légitime.
D'habitude, c'est vous qui me reprochez d'exagérer, mais là, vous charriez quand même.
C'est tout à fait totalitaire, pour en faire les frais. Vous en faites les frais tous les jours, Étienne. Les gens qui essaient de vous faire taire en vous recouvrant d'une étiquette, en vous affublant d'une étiquette, en décrétant que quoi que vous disiez, de toute façon, c'est marqué du sceau de l'infamie.
Oui,
ce mouvement-là,
ça.
C'est tout à fait totalitaire. C'est parfaitement liberticide. La liberté, c'est pas simplement la liberté de dire ce qu'on veut, c'est aussi construire un dialogue avec quelqu'un, c'est aussi instaurer les conditions d'un dialogue, c'est aussi remplacer l'opposition par la contradiction. Bon. Sinon, on bascule dans la tyrannie.
Tyrannie, oui, d'accord, mais tyrannie, c'est moins grave que totalitaire. Totalitaire, c'est contre totalitaire. Enfin, en tout cas, sur le...
Vous avez des mots forts contre l'élection, hein, Étienne. Vous dites qu'elle nous infantilise, qu'elle nous condamne à l'esprit
partisan.
Alors
ça, c'est un des points à voir suivant. Mais ceci dit, je voudrais... J'ai l'impression de ne pas avoir tout à fait terminé sur l'exercice de la décision. Pour moi, la démocratie... Enfin, oui, la démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté par la population concernée. Et donc, il s'agit de savoir comment on décide. Or, Certainement. Nous sommes trop nombreux pour élaborer, nous tous, les 40 millions, les lois. Donc nous allons avoir besoin d'une représentation. Donc nous allons devoir renoncer, je pense, à la démocratie.
On est d'accord.
Nous allons devoir renoncer à la démocratie directe. C'est, à mon avis, nécessité fait loi, on va y être contraint.
Nous allons devoir renoncer à la démocratie directe. C'est vous qui le dites, Étienne.
Bien sûr, mais j'ai jamais dit autre chose.
Magnifique.
D'accord. Oui, mais attention, Raphaël, regardez où j'arrive. C'est que, ayant besoin d'une représentation, il est essentiel que les aspirants à être représentés, ceux qui aspirent à être représentés, à mon avis, il est essentiel, et c'est ça que font les Gilets jaunes. Et c'est là que je les trouve exemplaires, parce que je regarde pas au microscope leurs défauts, que je vois bien aussi, mais je trouve qu'ils sont exemplaires sur ce point-là. Très méfiants de la représentation, parce que ça fait des années qu'ils sont trahis, des décennies qu'ils sont trahis, très méfiants de la représentation, ils réfléchissent au terme de la représentation. Comment on va désigner nos représentants sur le rond-point, sur le péage? Comment on va désigner nos représentants? On va les élire, on va les tirer au sort, ou on va faire un mélange des deux. Quel mandat on leur donne? Est-ce qu'ils nous préparent les lois et nous les votons? Ou est-ce qu'ils votent les lois et puis on s'en remet à leur choix? Comment on les surveille quand ils vont nous représenter auprès du ministre? Est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on les oblige à mettre un live Facebook? C'est-à-dire, vous savez, c'est possible aujourd'hui. C'est-à-dire que les représentants, donc les représentants du rond-point qui viennent voir le Premier ministre, peuvent exiger que soit posé sur un meuble un surveillant.
Mais quand on le leur refuse, ils s'en vont. Je sais.
Mais c'est bien ça. Je trouve qu'il y a une réflexion.
Moi, j'ai rien contre la transparence. Vous savez, quand la mairie d'ici les Moulineaux a publicisé les débats, c'était la première, je crois, dans le monde à le faire. C'était magnifique. C'était une conquête démocratique.
Voilà.
Moi, je vous accorde une chose, Étienne.
Et le dernier point, c'est comment est-ce qu'on les punit quand on n'est pas content? Et donc, quand ils réfléchissent à ces règles.
Les réseaux sociaux ont du bon passage.
Il me semble qu'ils sont exemplaires, parce que c'est dans l'ordre des choses. Les représentés réfléchissent au terme de la représentation, et c'est eux qui décident comment ils vont être représentés. C'est bien quand même.
Pour aller dans votre sens, je suis absolument d'accord avec vous. Pour aller dans votre sens, moi j'ai le sentiment qu'on augmente la démocratie quand on donne à ses habitants le sentiment qu'effectivement ils peuvent avoir une prise dessus,
ou en tout cas quelque chose, oui.
Qu'ils peuvent en avoir le désir, et que ça ne signifie pas rien, que les choses ne se décident pas dans notre dos en ayant simplement les apparences décision qui viendrait convenir à la majorité. Ce sentiment-là est très précieux. L'idée que les institutions sont solidaires des gens qui vivent sous leur régime me semble très important. Alors, qu'on en profite pour dénoncer comme liberticide un pouvoir parfaitement légitime, dénoncer comme tyrannique un pouvoir élu légitimement. Qu'on en profite pour dire un pouvoir, vous employez des mots fripouille, etc. Moi, ça ne va pas. Moi, j'arrive pas à vous suivre là-dessus. Qu'on en profite pour
gredin voleur,
gredin voleur fripouille, c'est trop facile. C'est trop facile.
Et vous les assumez, ces propos?
Mais oui, bien sûr.
J'espère bien. En parlant d'Emmanuel Macron.
Mais oui, bien sûr. Et je cherche des mots plus graves, mais j'en trouve pas. C'est-à-dire que
plus grave que gredin voleur.
Mais oui, parce que quand on détruit la sécurité sociale, on en a parlé.
Vous vous souvenez, il y a un truc qualifié de criminel.
Oui, mais c'est criminel.
Pas de tels propos.
Mais pas du tout. Le chômage fait 10.
C'est intéressant parce que
le chômage fait 10 à 15 000 morts par an.
Étienne,
le chômage fait 10 à 15 000 morts. C'est criminel.
Étienne, vous allez faire applaudir en faisant pleurer. C'est pas l'enjeu. On n'est pas là pour plaire aux gens, si vous voulez. Donc bien sûr qu'il y a des morts à cause du chômage. On est là pour essayer de comprendre quelque chose là.
Oui.
Moi, ce que j'observe, si vous voulez,
cette
université populaire, ce travail. Si, c'est grave.
Bah pourquoi?
Si, c'est grave. Quand on a une parole publique,
c'est moins grave que de tuer.
Bien sûr que c'est grave. Mais bien sûr. Mais
c'est moins quand même.
Bien sûr que c'est grave. Évidemment que c'est grave parce que c'est un blanc-seing pour l'idée que la dénonciation des lois qui garantissent la liberté, rien n'est plus liberticide que de croire en démocratie qu'on vit en dictature. C'est comme ça que les dictatures arrivent. C'est par la dénonciation comme liberticide de lois qui en réalité garantissent la liberté. C'est ça qui se passe avec les Gilets jaunes. On se représente la police républicaine comme une police fasciste. C'est grotesque.
Mais quand elle nous
tire
dessus,
mais arrêtez avec le « nous ». Il faut arrêter avec le « nous ». Elle nous tire dessus.
Vous vous identifiez pas au peuple sur lequel on tire dans les manifestations?
Mais parce que les policiers, c'est les policiers que vous excluez du « nous »,
en l'occurrence. Mais non, pas du tout.
Quand vous dites « nous tire dessus », ils pourraient être gilets jaunes comme vous.
Mais bien sûr, mais ils sont pleins de gilets jaunes. Je les plains, les policiers. Je les considère pas du tout comme différents du peuple.
Vous les plaignez?
Mais oui, je plains les policiers d'avoir à faire ça, parce que
quand
c'est les ordres qu'ils reçoivent.
Les mecs font bouclier pour protéger l'Arc de Triomphe et qu'on leur balance des trucs et qu'on dit vous nous gazez comme des putains de juifs, vous les plaignez.
Mais oui, cette situation est épouvantable. Non, mais je plains les policiers qui sont conduits à gérer une opposition aussi violente entre la population et les forces de l'ordre. Je plains les pauvres humains qui sont là au milieu à obéir aux ordres qui les conduisent à nasser les gens et à les gazer. Ce sont des gaz neurotoxiques. Toxique, Raphaël. Comment ça se fait que
pas du zyklon B.
Non, mais c'est pas du zyklon
B.
Non, mais il n'y a pas que les zyklon B.
En l'occurrence, c'était les analogies auxquelles on avait droit.
Je ne vous ai pas parlé de zyklon B. Je vous parle de gaz.
Des gilets jaunes qu'on parle là.
Je peux pas être responsable de toutes les horreurs qui sont dites par tous les gilets jaunes.
Non.
Je trouve que dire gazé ou tir tendu, ça correspond à une réalité. Les gens qui perdent un œil, j'en connais, perdent un œil.
Moi aussi.
Quand même, je m'identifie à eux, c'est-à-dire que je considère que je fais partie de la population sur laquelle les forces de l'ordre tirent, exercent une violence telle qu'ils nous tirent dessus. Et c'est les gens désarmés, c'est une mamie qui se fait assommer et jeter par terre.
J'entends votre
Bleguet, par exemple.
Oui, bien sûr.
C'est quand même pas
raisonnable. Alors là, pour le coup,
mais vous l'avez défendu.
Oui. Donc je suis tranquille avec ça. Si vous voulez, j'ai même comparé ça à la phrase de Pandreau au moment de la mort de Malik Oussekine, ce qui était à mon avis une comparaison excessive. Pandreau avait dit si j'avais un fils sous dialyse, je ne l'enverrais pas faire le con la nuit. C'était en 86, enfin après la mort de Malik Oussekine. Mais bon, vous avez raison, tout ça sont des tragédies. Je dis juste que mettre sur le même plan, ou parler de tyrannie, de fripouille, de violence, de tirer sur les manifestants, etc. Vous privez les gens qui vous écoutent. Si, pour une raison simple, à mon avis, je veux juste dire ça. Vous privez les gens qui vous écoutent d'une nuance essentielle entre un régime qui leur donne le droit de dire que ce régime est tyrannique et un régime qui les en empêcherait. C'est très grave.
Mais c'est pas nuancé d'utiliser des mots gentils pour décrire quelqu'un qui est en train de détruire la sécu. C'est pas nuancé. C'est parler par euphémisme. Et donc c'est protecteur. C'est nous priver des mots. Quand vous dites il faut pas utiliser le mot fripouille, gredin, crapule.
Vous faites ce que vous voulez. Je dis juste que je regrette cet emploi parce que je le trouve, si vous voulez.
Comment je fais pour dire que c'est très grave?
Vous diriez ça de Mugabe, vous diriez ça de Poutine, vous diriez ça de Maduro. Je veux bien Macron élu légitimement qui, dans 3 ans, s'il perd les élections, s'en va. Non, ça ne me va pas, ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est pas juste. Dans cette histoire de gilets jaunes, on a construit l'ennemi.
On le subit, l'ennemi.
On a représenté des potences. On a représenté
tous les peuples du monde font ça.
C'est ça qui était intéressant, c'était pas pour lui couper la tête. C'était pour se représenter un individu, un président de la République, en monarque, proche de la déchéance. Ouais, c'était juste une étiquette.
Bon, mais les outrances d'une foule qui se révolte et qui n'est pas contente, c'est rien du tout, quoi. Ils ont tué personne. C'est un exutoire, vous savez. C'est quand même pas grand-chose d'arriver
aux 5 dernières minutes.
C'est pas grand-chose. Déjà, à chaque fois, ça nous fait le coup. Hein. Vous remarquez qu'à chaque fois, c'est trop court. Hein. La prochaine fois, il faudrait vraiment...
Sur la légitimité de la violence, la légalité de l'emploi de la violence, parfois, Étienne Chouard, vous dites qu'elle dépend...
Mais je ne confonds pas la violence de l'agresseur et la violence de la victime. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Il y a un mot partout sur Terre qui s'appelle la légitime défense. C'est vrai, ça. C'est-à-dire qu'il y a une violence qui est légitime, c'est celle de la victime qui se défend.
Oui.
Bon, ces gens qui sont réduits depuis des décennies à gagner 800 euros par mois avec des enfants et qui n'arrivent pas, Raphaël, c'est ça que je vois sur les ronds-points, et c'est pas pour faire pleurer, je vous dis ce que je vis sur les ronds-points, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, ces gens-là sont la victime...
Sont
la victime d'une violence économique, politique et sociale depuis des décennies, et quand ils sortent dans la rue en tempêtant et sans rien casser, parce que faut pas les confondre avec les casseurs, ils sont pacifiques quand ils vont dans la rue, cette violence dans les mots qu'ils ont quand ils protestent contre Macron en faisant, c'est vrai, vous avez peut-être raison, le bouc émissaire, parce que Macron n'est que une marionnette dans un système de domination, mais c'est quand même pas grand chose comme violence par rapport à tout ce qu'on leur fait. Je rappelle le chômage, 10-15 000 morts par an, ça c'est pas de la violence, c'est la violence première, et la violence de réaction, elle vient vient d'une faute de représentation.
J'entends bien, mais la légitime défense ici, c'est pas un terme juridique, c'est une métaphore.
Cette violence-là, vous...
c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous dites voilà, il y a une violence sociale, il y a une misère
économique et politique.
Il y a une misère, il y a une violence économique. Il y a des gens qui souffrent et dont, par conséquent, là, les revendications sont légitimes. Et ce faisant, et c'est là le problème, si vous voulez, c'est quand on étend le champ de la légitimité jusqu'au champ de la légalité, c'est-à-dire qu'on considère, je ne dis pas que c'est vous, mais que le discours qui considère qu'on peut saccager l'Arc de Triomphe, ou plus exactement, avant de reprocher aux gens
ça
de saccager...
Ça n'a aucune
Étienne, s'il vous plaît.
C'est pas l'Arc de Triomphe, c'est un moulage.
C'est votre sentiment. C'est votre sentiment, chacun ses symboles. Le discours qui considère qu'il est légitime de saccager l'Arc de Triomphe, ou en tout cas que c'est pas si grave c'est au regard si grave, de voilà. la séquence sociale ben qui oui. précède tout ça, oui, oui. le discours qui considère que ce genre de prédation est soluble dans la grande série des causes et des effets, si vous voulez, de la misère sociale, oui. est soluble dans une douleur ou dans une séquence sociale, ce discours-là est un discours factieux.
Pourquoi
parce que c'est un discours où vous confondez délibérément la légitimité. Personne ne conteste la légitimité des revendications des Gilets jaunes. Personne.
Oui.
Et la légalité, ce qui n'a rien à voir. La légitimité, c'est un fait. La légalité, c'en est une autre.
Quand
on confond les deux, Étienne, je veux juste finir là-dessus.
Oui, oui, oui.
Quand on confond les deux, on bascule dans la culture de l'excuse. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un qui s'en prend à des bâtiments publics n'a pas de raison de le faire et qu'il peut avoir le sentiment d'avoir raison de le faire, il s'agit juste de dire que quelles que soient les causes qui président à son geste, il est quand même responsable de son geste et il doit être puni, sinon on cesse
d'accord.
d'être en liberté.
Non mais admettons...
les mots de la fin,
non,
déjà
Raphaël,
on arrive à deux minutes de la fin.
Admettons que,
vous êtes optimiste ou pessimiste?
Non, moi,
c'est une bonne question ça.
Ce que je vois sur les ronds-points... Et à côté des ronds-points, me rend extrêmement optimiste parce que le fait qu'ils deviennent constituants amène une transformation qui, je suis sûr, va passionner Raphaël. Je suis sûr, il faut qu'on reparle de ce truc-là. C'est fondamental. Les humains qui sont en train de devenir constituants, ils sont en train de sortir de l'enfance politique. Ils étaient des incapables. Électeurs, nous étions des incapables. Nous sommes en train, non pas de demander à devenir des adultes, nous sommes en train de devenir des adultes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du système actuel pour s'émanciper. C'est ça que ça, c'est tout à fait épatant. Il faut vraiment qu'on ait le temps de suivre cette conversation.
Le mot de la
ce qui me rend optimiste, moi,
vous
Eric,
aussi, vous êtes optimiste.
Oui, ce qui me rend optimiste, c'est que, comment dire, malgré les insultes, les avanies, le climat, etc., etc., il y a quand même constamment, avec Étienne, l'éclaircie d'un dialogue possible.
Les gens se parlent.
Et surtout que les gens entendent à quel point on peut discuter sans se disputer,
oui.
et que la véhémence n'est pas une agression. Voilà. Moi, j'aime ça. Je suis heureux de... Voilà, si vous voulez. Mais je suis heureux, en tout cas, d'avoir remis ça. Voilà.
Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Raphaël.
Allez,
Antoine, Étienne Choir. Une poignée de main devant les caméras, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les deux
d'avoir
répondu présent à ce nouveau débat. Vous pourrez naturellement le revoir en replay, ce débat sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, il y en a déjà beaucoup. Merci au réalisateur Louis Chabin ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'ont aidé à préparer donc ce nouveau débat. Merci à toutes les équipes techniques de Sud Radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 13h dans Les Incorrectibles. Je recevrai cette semaine un journaliste canadien, Mathieu Bock-Côté, qui vient de sortir aux éditions
Mathieu Bock-Côté,
L'Empire du politiquement correct. Vaste programme, je lui transmettrai. Belle soirée à l'écoute de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, c'est Yvan Cujous pour le Love Music et Étienne Chouard, quant à lui, vous retrouve tout de suite en Facebook Live avec Didier Maistre pour répondre à toutes vos questions. Bonne soirée.
Sud Radio, le débat. Raphaël Antoven, Étienne Chouard, 19h-20h. Éric Morillot. Aidez-nous tous.